Vous écoutez
RMC.
Très belle journée à tous sur RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Et là je vous pose la question, comment va-t-on tenir jusqu'à ce soir 22h, heure du coup d'envoi de France-Maroc, quart de finale du Mondial. À Boston précisément, où les supporters, vous l'entendrez, se sont déjà rassemblés durant la nuit avec un énorme dispositif de sécurité ce soir partout en France. La France tient qu'il n'en fait pas assez face au réchauffement climatique. C'est l'alerte du Haut Conseil pour le Climat ce matin. Et nous aurons suffisamment de profs à la rentrée de septembre, c'est la promesse faite ce matin sur RMC par le ministre de l'Éducation.
Le match a déjà commencé entre la France et le Maroc.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors, sur le terrain, ce sera ce soir à 22h. On va vivre une soirée incroyable sur RMC. Mais vous l'entendez, hein, Valentin Jamin, vous nous dites que c'est déjà parti dans les rues de Boston avec des rassemblements de supporters français et marocains durant la nuit.
Oui, et pour la première fois, les supporters réunis vers le port de Boston tremblent un peu, comme Grégory et son ami Mathieu, chapeau sur la tête et drapeau sur le dos.
C'est le premier match où on se dit potentiellement on peut partir de la compétition. Jusqu'alors, on n'avait pas eu trop de craintes. Là, c'est vraiment ce match-là qui va nous dire si on est costaud ou pas. Ouais.
Ça commence vraiment maintenant. Là, ils ont une revanche à prendre. Ils seront unis et ils sont préparés maintenant.
Le Maroc vient d'enchaîner deux quarts de finale en Coupe du Monde et affiche ses ambitions, ce qui fait sourire Jérémy, maillot sur les épaules.
Pour eux, s'ils gagnent ce match, c'est comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Ça me titille un peu, donc j'ai hâte qu'on les passe.
Mais les Marocains qui se sont rassemblés dans un parc à côté de l'hôtel des Bleus l'assurent, ils ne sont plus les mêmes qu'en 2022, dit Hicham.
On a plus d'expérience avec des joueurs de qualité. Et on a un entraîneur aujourd'hui meilleur que celui d'il y a 4 ans. Ils se serrent les coudes derrière leur pays et on est serein.
Ils devraient en tout cas gagner la bataille des tribunes, soutenue par une grosse communauté.
Il y a une énergie folle et c'est génial et c'était le cas dans toutes les villes. On espère continuer cette lancée, c'est l'heure de marquer l'histoire.
Et pour cela, il faut battre les Bleus ce soir.
Alors évidemment, on n'espère pas ça chez les Bleus de Didier Deschamps qui refusent de s'emballer. Ils le disent, qu'ils devront faire d'ailleurs sans Aurélien Tchouaméni, encore forfait ce soir à cause de sa blessure à la cuisse qui dure. Michael Olise, tiens, c'est à noter, sera sous le coup d'une suspension puisque contrairement au carton rouge des États-Unis, eh bien son carton jaune à lui n'a pas été suspendu par la FIFA. Alors chez nous, en France, c'est un très gros dispositif de sécurité qui sera déployé, quasiment le même que pour la finale de la Ligue des Champions, avec plus de 20 000 policiers et gendarmes écrit ce matin le journal Le Figaro partout en France et 8 000 environ à Paris, où les terrasses resteront ouvertes jusqu'à 2h du matin. Il y a des mesures aussi à Romaoc pour RMC dans les autres grandes villes.
Oui, et notamment à Montpellier, où souvenez-vous, en 2022, les célébrations qui avaient suivi la demi-finale opposant déjà la France au Maroc avaient été endeuillées par la mort d'un adolescent de 13 ans, renversé par un chauffard sans permis. Eh bien, dans tout le département, la préfète de l'Hérault a décidé d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique dès 18h30 ce soir et jusqu'à 8h demain matin. Même chose dans le Gard ou en Haute-Garonne, Toulouse, Alès, Nîmes, pas d'alcool sur la voie publique. Le Gard et la Haute-Garonne où les feux d'artifice sont également proscrits. À Nice et dans toutes les Alpes-Maritimes, les fan zones non déclarées seront interdites. Et dans les bars, les écrans vont devoir être tournés vers l'intérieur pour éviter tout attroupement devant les établissements. Et puis dans de nombreuses villes à travers le pays, Bordeaux, Annecy, Orléans, pour ne citer qu'elles, c'est tout le réseau de transport qui va être perturbé avec des lignes de bus ou de trams suspendues et des rues interdites à la circulation.
Alors ce qui fait la une des journaux ce matin aux États-Unis, ce n'est pas la Coupe du Monde, mais la situation à nouveau très tendue au Moyen-Orient, où les Américains ont mené de nouvelles frappes cette nuit, encore plus importantes qu'hier. Là, c'était ces dernières heures, c'est l'Iran qui était visé. Écoutez pourquoi, avec le vice-président américain J.D. Vance, c'est un peu troublant, on dirait qu'il explique la guerre à des enfants.
Les Iraniens avaient promis de ne plus tirer sur des bateaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 24 heures? Ils ont frappé à nouveau. Alors oui, ils ont été sages pendant à peu près une semaine et puis ils se remettent à tirer. Donc c'est très simple. S'ils tirent sur des bateaux, on va les mettre KO. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça va se passer.
Et alors cette nuit, Donald Trump lui est reparti du sommet de l'OTAN qui s'est déroulé en Turquie à bord de son ancien avion présidentiel et pas le nouveau, moins bien équipé en termes de sécurité. Selon la presse américaine, Donald Trump en a lui-même parlé en expliquant eh bien, que son avion pourrait être une cible pour l'Iran. Ce n'était pas une impression. L'Europe occidentale a enregistré le mois de juin le plus chaud de son histoire. C'est ce que nous dit ce matin l'Institut Copernicus. On en est à 3 canicules en 3 mois, des records absolus de chaleur et les 42 degrés dépassés hier près de la Méditerranée. Et la chaleur qui rend les vacances même pas reposantes dans les campings de la côte atlantique, nous dit notre correspondant RMC Pierre Bourgès.
En plein milieu d'après-midi, Cécile craque.
Je sors prendre l'air, j'en peux plus.
C'est trop chaud.
Cette Nantaise venue sur le bassin d'Arcachon pour les vacances avec ses trois enfants suffoque à l'intérieur de son mobilhome. Son mari, Johan, regarde désespérément le thermomètre monté.
32 degrés à l'intérieur. C'est compliqué. Moi, je tiens pas. Fin de semaine, on part du côté de Sarlat et apparemment, les températures vont monter. On a changé notre mobilhome pour en prendre un équipé avec clim.
Facture de ce surclassement, 200 euros à ajouter au prix de la réservation initiale.
Pour pas gâcher nos vacances, et bon, on acceptait de mettre un prix plus conséquent.
Pour d'autres, c'est système D. Dans la caravane d'Emmanuel, les 40 degrés l'ont poussé à s'adapter tant bien que mal.
J'ai demandé les couvertures de survie et voilà, je l'ai... J'ai fait un paquet cadeau.
Résultat, la moitié de sa caravane est recouverte par plusieurs couvertures, face argentée à l'extérieur pour garder l'habitation au frais. Il a aussi ajouté une bâche sur son toit.
Et c'est vrai que le matin, je gagne quand même 4 degrés à l'intérieur.
Sur le bassin d'Arcachon, de plus en plus de campings anticipent ces fortes chaleurs. Depuis 2022, certains d'entre eux ont généralisé la climatisation dans les mobilhomes.
Et c'est bien la preuve que la France n'est pas prête et n'en fait pas assez pour s'adapter au changement climatique. Hein, prévient ce matin le Haut Conseil pour le Climat, avec en plus de la chaleur, des incendies qui sont toujours pas fixés là, au moment où on se parle, dans la Drôme et dans les Pyrénées-Orientales notamment. La campagne présidentielle, elle s'est accélérée. Vous le savez, cette semaine, Marine Le Pen condamnée, mais candidate. Campagne qu'elle a lancée hier dans la Sarthe. Tiens, il y a du nouveau ce matin. Le procureur général près de la Cour de cassation dit qu'il fera tout pour rendre sa décision avant le premier tour de l'élection présidentielle. La campagne présidentielle, c'est aussi le Parti Socialiste qui va soumettre dans la soirée la question de sa stratégie et de la primaire à gauche à ses militants. On verra ce qu'en dit Olivier Faure, d'ailleurs le patron du PS, tout à l'heure invité à 8h30 au micro d'RMC d'Apolline de Malherbe. En attendant, vous venez d'entendre ce matin sur RMC... Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffrey, se félicite du bon bilan des concours enseignants pour le primaire et le secondaire. Les règles ont changé, le concours est désormais ouvert au bac plus 3. Édouard Geffrey assure qu'on aura suffisamment d'enseignants à la rentrée. 24 000 admissions, dit le ministre, cette année, surtout en maths et en physique, avec de meilleures moyennes que les 16 000 qui avaient été admis l'année dernière. Et parmi eux, eh bien, écoutez quelques exemples avec Louis Salé pour RMC.
Pierre a travaillé plus de 10 ans derrière un bureau, mais sa carrière de directeur marketing ne lui convient plus.
Ça va me faire un changement radical. Mais c'est ce aussi à quoi j'aspire. C'est le fait de travailler moins sur mon ordinateur, plus avec des êtres humains, qu'ils soient petits ou grands.
Et il appréhende un peu sa rentrée.
Le 1er septembre, je pense que je serai plus intimidé que mes élèves. Potentiellement, ça peut générer du stress, des insomnies. On a beaucoup parlé des scandales du périscolaire qui vont créer, à juste titre, de la défiance aussi envers les professeurs. Qui plus est, moi, je suis un homme. Donc, ça amène des difficultés, c'est sûr. Après, le métier... Il est magnifique et j'espère pouvoir aider les élèves de la meilleure des manières.
En septembre, Pierre suivra une formation d'un an tout en enseignant à mi-temps, rémunéré à 1800 euros. Une nouveauté de la réforme qui a séduit Maria Louisa. Elle vient de passer le concours, désormais accessible après 3 années d'études.
On est rémunéré cette année, ce qui est une très bonne chose. Il y a aussi cette possibilité de pouvoir passer en bac plus 3 et d'accéder plus facilement à sa classe.
Et elle a hâte aussi de suivre les pas de sa mère et de son grand-père qui ont été professeurs.
Bon, et on va réviser la géographie aujourd'hui sur la 6e étape du Tour de France entre Pau et Gavarnie, les Pyrénées, première étape de haute montagne avec des passages par les mythiques cols d'Aspin et le Tourmalet. La première bagarre attendue entre les favoris du général, Paul Sexas et son équipe s'attendent à être attaqués par les cadors qui vont vouloir le tester.
C'était le journal de Quentin Vinet et c'est l'heure de l'économie à 8h09. Mais d'abord, vous redire si vous êtes patron d'une PME que c'est le moment de mettre en valeur votre entreprise. Il ne vous reste plus que 2 jours pour vous inscrire. 17e édition des trophées PME RMC BFM 2026. Vous êtes entrepreneur, vous dirigez une petite ou moyenne entreprise. Vous pouvez participer à ce grand concours et gagner jusqu'à 100 000 euros d'espace publicitaire sur le groupe RMC et mettre en valeur votre entreprise. Too Good To Go, Blablacar, C'est Qui le Patron, voilà des entreprises qui ont fait confiance au trophée PME et qui ont eu un véritable coup d'envoi pour leur entreprise grâce à ce concours de PME. Vous pouvez vous inscrire donc dès maintenant et jusqu'à demain soir, tout dernier jour, vous vous inscrivez sur trophée-pme-rmc-bfm.fr. Bonne chance à tous, 8h09.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Emmanuel, les Français vont dépenser un peu plus pour leurs vacances, mais ils seront un peu moins nombreux à partir.
Oui, le budget moyen pour les vacances sera cette année de 1864 euros par famille. C'est 5% de plus que l'an dernier, donc ça augmente davantage que l'inflation. Mais un budget qui sera consacré à des vacances plus courtes, un peu moins de 2 semaines, contre un peu plus l'an dernier. C'est ce que nous dit l'étude que vient de publier Rédion. Les Français seront également moins nombreux à partir, et ceux qui partent resteront davantage en France que que l'an dernier. Le principal frein, évidemment, c'est le budget. C'est ce que confirme l'enquête que publie SumUp, sachant que la contrainte financière ne touche pas tous les Français de la même façon. 26% des femmes vont renoncer à partir. C'est presque deux fois plus que les hommes. Le clivage territorial est tout aussi frappant. Un habitant sur 10 restera chez lui à Paris. 3 sur 10 dans le Nord ou dans les Ardennes.
La principale crainte de ceux qui partent, c'est le dépassement du budget qu'ils avaient prévu.
Oui, et vous savez ce qu'inquiète le plus les Français ? C'est de se laisser entraîner par l'effet bande. C'est ce que nous dit Yomoni. 7 Français sur 10 ont déjà dépassé leur budget parce qu'ils ont suivi des amis ou de la famille dans des locations de maisons, des restos, des activités trop chères pour eux. Et alors vous savez ce que c'est le pire ? C'est que 1 vacancier sur 2 a déjà payé plus que sa part pour éviter de se disputer avec sa famille ou avec ses copains. Vous savez, c'est le
fameux. Il le regrette après,
de l'addition du
mais.
Alors voilà, exactement. Donc les vacances, c'est aussi le révélateur des fractures financières entre proches. Je ne peux pas vous laisser sur cette note aigre-douce. Et je termine par une petite nouvelle rassurante. La carte postale, vous savez, le réseau social le plus lent de l'été, eh bien, résiste. Plus de 6 Français sur 10 continuent d'en envoyer, et notamment les jeunes.
Ah, j'adore cette petite information, effectivement, très sympathique.
Mais oui,
les chiffres du jour. Oui, alors le problème, c'est que la vraie fin, ça va être maintenant. Et Emmanuel, en vrai, les chiffres du jour, c'est pas terrible.
Non, ça, c'est pas terrible. Hein. On est en train d'assister, finalement, à une tension.
Et ça va pas arranger le budget des vacances.
En gros, le gazole, le samplon 95, on est aujourd'hui à 1,91€ le litre. Donc c'est simple, on est en train de reprendre 1 centime par jour le litre. C'est dû en partie au rebond des cours du pétrole. On était à presque 79$ le baril ce matin. Je vous rappelle qu'on était qu'à 71 il y a 3 jours. C'est dans le Golfe, évidemment, que se trouve l'explication. Et puis le gaz, ça remonte fort aussi. Hein. On est à plus de 49€ le mégawattheure. On était à 41€ il y a 10 jours. Donc oui, des petits clignotants orange qui s'allument sur notre tableau de prix.
Merci Emmanuel,
8h12. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous, voilà la suite du programme. Dans un instant, on va retrouver le meilleur d'Arnaud Demanche. À 8h30, ce sera le face-à-face. Mon invité, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Marine Le Pen, candidate malgré tout. La réaction, évidemment, d'Olivier Faure. Et puis, qui pour représenter les socialistes? Auront-ils un candidat commun avec les écologistes, avec les communistes? Bon, sans doute pas avec LFI, ça ils l'ont dit. Mais jusqu'où, justement, et comment s'organisera cette union d'une gauche hors LFI? Réponse dans un instant, donc 8h30 avec Olivier Faure. Juste après, il y aura le choix de la rédaction à 8h50, Mathieu.
Quand les choses sérieuses débutent avec les Bleus à la Coupe du Monde, ils débarquent. Les Footix, ils ne connaissent pas la règle du hors-jeu ni même le nom des joueurs, mais ils sont à fond. C'est le choix de la rédaction à 8h50 et puis les dernières infos sur le mondial avant match France-Maroc ce soir. Ça, c'est avec Virginie Fulpin, bien sûr.
8h13 sur RMC, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
18h sur RMC et RMC Story. On vous a gardé le meilleur d'Arnaud Demanche. Arnaud qui revient ce matin sur le conflit au Moyen-Orient, aux conséquences imprévisibles.
Et voilà.
Allez, Arnaud.
Et en plus, on en profite parce que sinon, enfin, c'est la misère, quoi. Ma pauvre Apolline, mon pauvre Mathieu, Géraldine, Virginie. Les horreurs de la guerre. Ça continue puisqu'après les carburants, maintenant c'est les pistaches qui sont impactées par la guerre. La pénurie explose. Enfin, les prix montent. Manu Le Chypre vous en a parlé cette semaine ici et il a même laissé éclater sa colère sur BFM Business.
Bonjour. Aujourd'hui, l'impact économique du blocage du détroit d'Ormuz. Emmanuel Le Chypre, vous voulez... Enfin, Choubinou, qu'est-ce que tu fais en tenue de camouflage avec un masque et des palmes?
Non, c'est juste que si on commence à toucher à la bouffe, ça va chier. Alors moi, je pars dans le détroit et on va voir s'il y a toujours un blocus.
Oh, mon héros, non! Ne fais pas ça, ne t'en va pas! On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je ne veux marier, père!
Non, Moumoun, c'est mon devoir. Je peux pas laisser... Je peux pas laisser à mon fils un monde sans pistache. S'attaquer à l'apéro, c'est s'attaquer à la France.
Effectivement, Macron doit parler.
Française, Français, nous sommes en guerre. Ils s'en prennent à nos valeurs, à notre mode de vie. Aujourd'hui, l'apéro est une cible. Et demain, si nous n'y prenons pas garde, les cacahuètes et les chipsters seront visés.
Bon, on a du bol, le cochonou est pas trop produit dans la région, donc ça, ça va. D'ailleurs, aujourd'hui, RMC offre aux auditeurs leur plein d'essence toutes les 30 minutes. Et ça, c'est... Ah, non, pardon, Grégory, notre directeur d'antenne, vient de m'écrire, l'opération est annulée. RMC vous offre dorénavant 120 000 pistaches. Vous faites tourner la roue des pistaches. Et la roue des pistaches vous donne un numéro pour ouvrir le coffre des pistaches, Apolline. Et dedans, il y a 12 pistaches numérotées, sauf qu'il y en a 11 de vide. C'est juste la coquille. Il faut trouver la bonne. Et là, vous gagnez votre poids, 120 000 pistaches.
Greg, bon, il est prêt à,
le 120 000 pistaches. Alors, je me suis informé sur les produits bloqués par la fermeture du Détroit. Donc, il y a le pétrole, le gaz, la pistache, le chocolat à la pistache de Dubaï. Bien c'est sûr, suite à une seule bouchée, t'as les fesses de Kim Kardashian. De bloqué, il y a aussi le droit des femmes et la démocratie. Mais alors là, c'est bouché dans l'autre sens de navigation. Ils ne peuvent plus en importer. Bon, après, ce n'est pas des gros consommateurs non plus. Non, c'est moins grave pour eux que nous, les pistaches.
Donald Trump a dévoilé les plans de l'Arc de Triomphe qu'il compte faire construire aux États-Unis.
Oui, un arc qui ressemble aux Français, mais en plus gros. La définition d'un Américain.
Nous,
quand on voyage dans un pays étranger, on ramène une épice ou une boisson locale. Lui, il ramène des bâtiments. J'ai aimé l'Arc de Triomphe, je le veux. Trump, il se construit en ce moment une salle de bal, un Arc de Triomphe. En fait, il est dans sa période, j'aime les grues et les tracteurs. Oui. Il a les mêmes plaisirs qu'un enfant de 4 ans. Il a, oh, le beau tractopelle. Là, il a une petite période, j'aime les fusils et les bateaux. Mais bon, ça va se calmer, hein. Apo, vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Dans 3 semaines, il va attaquer la phase dinosaure.
Oui. Ah oui.
Je vais ressusciter des tyrannosaures et les lâcher en Iran. Oh, oh, un dinosaure. Pas du tout, je suis Jack Lang. Vous vous souvenez de moi? On s'est croisés dans le jacuzzi de Woody Allen chez Jeffrey. Avec Bill Gates et Patrick Bruel. Ça vous dit rien cette soirée?
C'était Arnaud Demanche, évidemment pour notre plus grand bonheur. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs à tout moment en podcast sur l'appli RMC.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et justement, on vient de parler de vacances avec Emmanuel Le Chypre. Eh bien, on vous les offre, vos vacances. Et Eddy, bonjour Eddy.
Bonjour Apolline.
Bah, félicitations, félicitations, c'est vous qui avez gagné.
Merci, ça tombe très bien, j'avais pas décidé ma destination pour les vacances.
Eh bah alors ça tombe très très bien, vous allez pouvoir choisir parmi les 45 destinations des clubs et hôtels Bellambra. Eddy, vous faites quoi dans la vie?
Je suis livreur.
Vous êtes livreur dans le Val-de-Marne, c'est ça?
Dans le Val-de-Marne, c'est ça.
Eh bah, vous allez pouvoir partir une semaine, mer, montagne, et Bellambra s'occupera de tout, des activités. Enfant ou pas enfant d'ailleurs?
Je vais partir avec ma petite fille de 5 ans.
Ah, ça c'est sympa. Ah bah ça c'est merveilleux. On est hyper heureux de vous les offrir. Félicitations Eddy et puis merci de votre fidélité à RMC.
Merci beaucoup.
Belle journée à vous. Il est 8h21. Il y a Régis aussi qui nous appelle, lui des Bouches-du-Rhône. Bonjour Régis.
Bonjour Apolline. Régis, ravi de pouvoir échanger avec vous.
Eh ben moi de même, Régis. Vous êtes chauffeur et vous vouliez réagir à cette décision de Marine Le Pen d'y aller quand même. Hier, vous l'avez vu, premier déplacement de campagne, un déplacement assez perturbé. Elle a été obligée de l'écourter avec des militants, notamment des militants LFI ou Europe Écologie Les Verts, qui tapaient sur des casseroles. Vous trouvez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'elle y aille, Régis?
Pour moi, c'est une très mauvaise chose. Pour la simple et bonne raison que le RN, depuis des années, fustige tous les candidats qui ont, permettez-moi l'expression, des casseroles au cul.
Ouais.
Et il se trouve qu'elle-même, même si elle dit qu'elle n'est pas condamnée parce qu'elle a fait un pourvoi en cassation.
Un pourvoi en cassation, ouais.
Je trouve que c'est vraiment pas honnête, quoi.
Alors, ce sur quoi ils insistent au RN, et c'est ce que disait Louis Alliot hier, ils disent, oui, mais c'est pas de l'enrichissement personnel. Pour vous, ça change rien? Vous êtes électeur RN ou pas, d'ailleurs?
Oui. Je suis électeur RN depuis pas mal d'années, depuis que Marine Le Pen a pris les rênes du parti.
D'accord.
Bon, je n'ai pas la carte du parti, mais...
Mais vous êtes sympathisant RN, quoi. Vous votez RN.
Sympathisant. Voilà, je vote RN, sauf au municipal.
Ah, d'accord, au municipal. Il y avait un candidat RN chez vous ou pas, d'ailleurs?
Je ne me rappelle plus. Mais vous savez, moi, j'habite dans une petite ville de 4500 habitants. Ouais. Et je considère que dans des petites villes comme ça, politiser une élection municipale, c'est un petit peu ridicule.
Mais là, Régis, vous pourriez, à cause de cette situation, ne plus voter RN ?
Ah ben c'est pas que je pourrais, c'est que je ne vais plus voter RN.
Vous ne voterez plus RN ?
Non, je ne voterai plus RN. En plus de ça, depuis quelque temps, hein, ils ont un programme économique qui me pose question. Et
vous allez voter qui alors ?
Ben, j'hésite entre Sarah Knafo et David Lisnard.
D'accord. Bah écoutez, vous aurez le temps de nous le dire, en tout cas, Régis. Mais merci beaucoup d'être passé par le 32-16 et d'être venu réagir. Il est 8h23. Dans un instant, la politique, ça continue. Et c'est Olivier Faure, mon invité, le premier secrétaire du Parti Socialiste. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et la paix qui vole en éclats, là, ce matin, au Moyen-Orient, avec de nouveaux bombardements durant la nuit de la part des Américains visant l'Iran, encore plus que la nuit d'avant. Les gardiens de la Révolution en Iran disent avoir frappé en représailles des bases américaines de la région. Côté français, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, appelle ce matin au calme. Les États-Unis, tiens, où les Bleus vont jouer ce soir à Boston, leur quart de finale de la Coupe du Monde contre le Maroc, coup d'envoi à 22h. Ça promet une soirée incroyable sur RMC. Des supporters marocains et français ont donner de la voix durant toute la nuit. Et puis 5 départements, toujours ce matin au niveau le plus élevé pour les risques d'incendie. Il y en a 72 qui sont en alerte orange pour la canicule. Il y a que la Corse qui résiste à ces fortes chaleurs et reste en vigilance verte cet après-midi. Il fera jusqu'à 40 degrés à Perpignan.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, la politique, le face-à-face. Mon invité, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Vote crucial des militants socialistes aujourd'hui pour décider comment ils désigneront leur candidat. Et justement, est-ce qu'il sera un candidat, Olivier Faure ? Puis surtout, s'il est désavoué, est-ce qu'il sera encore premier secrétaire ce soir ? Vous pouvez compter sur moi pour lui poser la question dans un instant.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure.
Bonjour.
Merci Apolline de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Seine-et-Marne. On verra si vous êtes encore d'ailleurs premier secrétaire du Parti Socialiste ce soir. Je vous poserai la question de savoir quelles conséquences le vote des militants qui est organisé ce soir pour désigner la manière d'avoir un candidat au Parti Socialiste aura des conséquences sur vous et puis sur la France d'une certaine manière. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur la campagne qui démarre. Marine Le Pen qui a décidé d'être candidate malgré tout. D'abord, est-ce que la Cour de cassation doit accélérer le processus ? Est-ce que pour vous, il faut savoir oui ou non si Marine Le Pen, si le jugement est confirmé ou non avant l'élection présidentielle ?
Moi, je ne commande jamais les décisions de justice. La justice est indépendante, elle doit le rester, nous sommes dans un état de droit. Et donc, il y a eu deux jugements, un premier en instance qui a condamné Marine Le Pen lourdement pour des faits qui sont caractérisés, détournement de fonds publics. Ce jugement a été confirmé en appel, même si la peine d'exécution provisoire a été annulée et donc que Marine Le Pen est désormais en capacité d'être candidate à l'élection présidentielle.
Pour ça, vous trouvez que voilà le fait qu'elle soit malgré tout candidate, elle en a le droit ?
Elle en a le droit. C'est légalement possible. Est-ce que c'est moralement souhaitable que quelqu'un qui se présente à la présidence de la République, à la magistrature suprême, soit elle-même une personne condamnée ? Je me souviens d'une époque où l'extrême droite se vantait d'être main blanche, tête haute. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les mains sales et la tête basse. Et donc, la réalité, eh bien, c'est que la décision appartient à Marine Le Pen. Elle a donné sa réponse. Maintenant, la justice n'a pas à se prononcer en fonction de Marine Le Pen, mais en fonction de son propre agenda. Et je crois que Rémi Hatz a confirmé le fait que il y aurait effectivement une décision qui serait prise par la Cour de cassation en avril. Donc en avril prochain, il est possible que Marine Le Pen soit soumise au bracelet électronique.
Perturbée par des manifestants hier, le premier déplacement, ils avaient des casseroles, il y avait notamment des militants avec des drapeaux LFI ou Europe Écologie Les Verts, avec des cris comme « En prison les voleurs ». Est-ce qu'il faut littéralement l'empêcher de faire campagne, comme ça a été le cas hier? Elle a été obligée d'écourter et de changer son programme.
Bon, ça l'a pas empêché de faire campagne, et la réalité c'est qu'elle fera campagne. Mais vous ne pouvez pas non plus empêcher des citoyens qui considèrent qu'il y a là une anomalie à ce que quelqu'un qui a été condamné aussi lourdement pour détournement de fonds publics, il ne s'agit pas d'une affaire privée, il s'agit en réalité de quelqu'un qui a fraudé la loi et qui a volé l'argent des Français et des Européens. Donc l'évidence, c'est que il y avait une forme de retenue morale qui aurait dû s'imposer à elle, ce qui n'est pas le cas, et donc il n'est pas anormal qu'il y ait des gens qui viennent lui signifier que sa situation n'est pas normale.
Gabriel Attal dit Marine Le Pen prend en otage la campagne présidentielle. Vous trouvez que c'est le cas ?
Je ne sais pas si elle la prend en otage. La réalité, c'est que ça aurait été Jordan Bardella, c'était la même histoire. Nous sommes dans une situation où c'est un parti qui a été condamné et où le danger que représente l'extrême droite, c'est évidemment, on le comprend, une forme de trumpisation de la vie politique, mais c'est...
C'est une forme de trumpisation. Elle fait du Trump, Marine Le Pen.
Bien sûr. Elle est, non pas la copie conforme, mais en tout cas, on voit bien que son modèle est un modèle illibéral, une forme de... on passe par-dessus toutes les règles de la morale élémentaire, par-dessus l'état de droit, alors même qu'elle voulait incarner l'autorité de l'État.
Ça n'a pas l'air de décourager les Français pour l'instant. En tout cas, les premiers sondages depuis cette décision, il y a notamment ce sondage IFOP, qui montre que qui que ce soit face à elle, au deuxième tour, elle l'emporte.
C'est vrai. C'est vrai. De toute façon, c'est une candidate redoutable. Et l'extrême droite est aujourd'hui avec le vent dans le dos. Donc, ce serait une forme de la capacité à comprendre la situation que de dire le contraire.
Alors, celui mais face auquel elle l'emporterait le plus largement, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Et que voulez-vous que je vous dise? Je pense effectivement que le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est à la fois un très bon candidat de premier tour, mais qu'il est le plus mauvais candidat pour la gauche au second tour, parce qu'il est celui qui permet à toutes les droites de se coaliser, puisqu'il est devenu en réalité une forme d'épouvantail commode. Et donc la réalité, c'est que il serait sèchement battu par l'extrême droite, ce qui serait un problème, non seulement parce que la défaite serait au rendez-vous, mais aussi parce que le score lui-même serait sans appel et donnerait le sentiment qu'en réalité la France a basculé à l'extrême droite, ce qui ne peut pas être le cas. Mais pour l'instant, avant de parler au second tour, parlons déjà du premier.
On va parler déjà du premier.
Et donc, faisons en sorte qu'il y ait au rendez-vous une gauche qui est en capacité de l'emporter.
Mais c'est qui cette gauche-là ? D'abord, primaire ou pas primaire ?
Il y aura une primaire.
Mais alors primaire ou primaire, c'est-à-dire laquelle primaire ? Pardon, je me perds complètement. J'ai essayé de comprendre.
Ça va être très simple.
Vos adhérents, je redis quand même le contexte. Il faut que tout le monde comprenne. Les adhérents socialistes sont appelés aujourd'hui à voter pour décider du mode de désignation. Donc ils ne décident pas du candidat, ils décident du mode de désignation. Deux options, une primaire dite ouverte, c'est-à-dire qu'il faudrait payer 2 euros mais ne pas avoir à prouver qu'on est adhérent du parti pour choisir. Et puis l'autre forme de choix, ce serait une primaire dite fermée, les adhérents socialistes et place publique à jour de cotisation qui décideraient. J'ai bon ?
Tout bon.
Et vous êtes pour la solution 1 ?
Je suis pour ouvrir les portes et les fenêtres. Je suis pour que dans un moment que vous venez de décrire, qui est un moment où nous ne sommes pas les favoris de cette compétition.
Où nous avons... c'est le moins qu'on puisse dire, mais je vous trouve très lucide.
Mais il faut l'être. Mais donc, à un moment où on sait que ce combat sera extrêmement difficile, ce n'est pas le moment du repli sur soi. C'est le moment, au contraire, où on doit ouvrir les portes et les fenêtres et créer un élan populaire, créer une dynamique, faire en sorte qu'il y ait des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes qui viennent ajouter leur force aux nôtres et qui viennent donner une légitimité.
C'est le modèle de la primaire 2012.
C'est le modèle de la primaire 2012 qui avait permis la victoire de François Hollande. Et donc, il faut trouver un moyen, comment on dit en bon français, on dirait un game changer, un moment qui permette de dire que quelque chose se passe dans cet espace politique-là et que nous sommes en train de prendre la mesure de ce qu'est une élection présidentielle.
Quand vous dites ouvrir toutes les portes...
On n'est pas nommé président de la République, on est forcément élu.
Mais Olivier Faure, vous dites...
Il faut prendre les haies les unes après les autres.
Donc là, c'est la première, aujourd'hui, en quelque sorte, cette haie-là, ensuite il y aura la haie de la primaire, et puis ensuite il y aura la campagne. Mais quand vous dites ouvrir grand les portes et les fenêtres, ça veut dire jusqu'où ? C'est-à-dire que vous imaginez que ceux qui viendraient et qui paieraient 2 euros... ça veut dire que n'importe qui pourrait voter. Et en même temps, vous dites la gauche hors LFI. J'ai pas tout à fait compris. Vous ouvrez, mais pas non plus grand, quoi.
Non, ça veut dire que toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette gauche-là pourront venir voter, moyennant la somme modique de 2 euros. Donc, pas de barrage à l'entrée, pas de vote censitaire. On ne demande pas aux gens de venir payer 20, 30, 40, 50 euros, comme c'est le cas pour les militants. Et donc, on est dans une situation où on dit à tous... venez choisir votre candidat et venez ensuite le supporter.
Quand vous dites vote censitaire, c'est parce que pour être adhérent, pour avoir sa carte à jour, il faut effectivement payer sa cotisation et ça peut aller jusqu'à 40 euros. Non, c'est quoi? C'est 15-20?
Mais non, c'est bien plus que ça. Vous vous rendez pas compte? Moi, je paye 6
000. Non, je ne suis adhérente d'aucun parti, donc je ne sais pas.
Mais je vous donne ma cotisation à moi, c'est 6 500 euros.
Ah oui?
Ah, bien sûr.
Enfin, c'est parce que vous êtes député.
Parce que je suis député.
Oui, voilà, tout le monde n'est pas député. Enfin, j'espère que vous n'avez pas que des militants députés, sinon ça vous en fait pas beaucoup quand même.
Ça ferait pas beaucoup, effectivement. Mais la cotisation de base, elle est à 60 euros normalement. Donc, avec des cotisations sociales, avec la possibilité pour ceux qui ont des difficultés sur leurs revenus de payer moins cher. Mais enfin, la réalité, c'est quand même que c'est une cotisation qui est élevée. Et donc, moi, je souhaite que, y compris pour que les classes populaires puissent venir participer à ce scrutin, qu'elles puissent dire, voilà, moi, entre X et Y, je choisis X ou Y, eh bien, je souhaite que tout le monde puisse venir et que tout le monde puisse donner un élan à ce candidat. Donner une légitimité très puissante, très forte, qui permette de dire qu'il y a à un moment quelque chose qui se passe et faire en sorte que ce candidat ou cette candidate soit en mesure derrière de prendre son élan. Regardez ce qui s'est passé avec toutes les primaires, qu'elles aient eu lieu à droite ou à gauche. Ça a toujours donné un élan au candidat. Ça a été le cas pour François Hollande, ça a été le cas pour Benoît Hamon, ça a été le cas pour
Valérie Pécresse. Vos opposants au sein du Parti Socialiste, vous diraient qu'ils sont aussi pour une primaire. Simplement, c'est primaire ou primaire. C'est-à-dire primaire ouverte ou primaire fermée.
Oui, bah,
et de toute façon, il y aurait une primaire.
Bien sûr,
on est
d'accord. De toute façon, une primaire.
Mais il y aura de toute façon une primaire.
Ça n'est pas la même chose de faire un huis clos entre militants socialistes et place publique, même si, évidemment, j'ai le plus profond respect pour les uns et pour les autres. Je suis premier secrétaire, donc c'est pas moi qui vais cracher sur mes propres militants. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, nos militants, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent, en réalité, aller vers la victoire. Et pour aller vers la victoire, il faut éviter de donner le sentiment d'être dans l'entre-soi, d'être fenêtre et porte fermée, mais au contraire, de s'ouvrir au maximum et de dire, mais écoutez, venez avec nous, venez donner de la force à celui ou celle qui sera le candidat à la présidentielle.
Qu'est-ce que vous ferez ce soir? Vous serez premier secrétaire du Parti Socialiste encore ce soir, quel que soit le résultat?
Je ne comprends pas très bien votre question, pour tout vous dire.
Bah, ma question, c'est que vous aviez un choix. Votre choix à vous, c'est l'option 1. Si c'est l'option 2 qui l'emporte, est-ce que vous partirez?
Vous l'avez dit vous-même, il y aura une primaire dans tous les cas de figure. Moi, ce que j'ai ouvert comme choix, c'est le fait qu'on puisse avoir deux solutions. Je suis un démocrate, donc j'ai dit... Puisque nous ne sommes pas
exactement
d'accord.
Donc même si vous êtes désavoué, vous restez.
Mais il n'y a pas de question de désaveu ou pas désaveu. C'est pas un référendum pour ou contre moi. C'est ce soir un choix stratégique. Est-ce que nous considérons que nous sommes très bien entre nous et que ça suffit? Ou est-ce que, au contraire, on souhaite s'élargir, faire en sorte que le plus grand nombre ait le sentiment que ce candidat est le candidat qu'ils ont choisi? Moi, c'est la version que je défends parce que je crois qu'à un moment, dans une campagne où vous avez une extrême droite qui est en majesté, où vous avez des concurrents à droite comme à gauche qui sont déjà sur le pied de guerre et qui ont déjà marqué leur territoire, si vous voulez arriver à reprendre le terrain, ça suppose d'avancer.
D'ailleurs, sur cette question du calendrier, les autres sont déjà partis en campagne, enfin une partie en tout cas. Ce serait quand cette fameuse primaire? Option 1 ou option 2?
Fin septembre, début octobre.
C'est pas un peu tard?
Un peu tard.
Bah, les uns et les autres sont déjà partis.
Toutes les primaires qui ont eu lieu précédemment.
C'était toujours à l'automne.
Toujours à l'automne, parfois même beaucoup plus tard. Et la réalité, c'est que méfiez-vous aussi des sondages. Vous avez, et c'est pas un reproche que vous faites à vous uniquement, mais c'est un reproche qu'on peut faire au monde politique comme au monde médiatique. Tous les ans, enfin avant chaque présidentielle, c'est pareil. On commente les sondages et on dit « Oh là là, ça va être... » La réalité, c'est que si les sondages avaient vu juste un an à l'avance, ça se saurait. Depuis 1974, ils se sont quasiment
toujours trompés. On se souvient de François Hollande, le fameux monsieur 3%.
On se souvient de François Hollande, mais on pourrait aussi dire que, normalement, Alain Juppé, Édouard Balladur, Raymond Barre, même peut-être Éric Zemmour, tous ces gens-là ont été un jour promis à l'élection présidentielle par les sondages, et la réalité, c'est qu'ils n'étaient même pas au second tour la plupart du temps.
Vous serez candidat?
Vous verrez.
Vous serez candidat?
Mais je n'ai pas... Moi, je cherche depuis des
mois... Vous ne serez pas candidat?
Et je n'ai rien dit, j'ai dit simplement que ça fait des mois que je cherche surtout à tenir un rôle exigeant, qui est celui d'un premier secrétaire.
Mais vous cherchez aussi, vous ménagez la possibilité de l'être.
Je suis premier secrétaire, il ne serait pas illégitime que je le sois. Je n'ai pas dit que j'avais pris ma décision. Mais ce que je dis,
c'est que... Mais vous n'avez pas décidé de ne pas l'être.
Ce que je dis, c'est que ça fait des mois que je cherche à concilier des points de vue qui sont parfois très divergents. Pourquoi faire ? Pour arriver à rassembler la gauche, que j'ai dite.
Mais vous n'arrivez même pas, pardon, Olivier Faure, mais à un moment, il faut quand même regarder les chiffres. Vous n'arrivez même pas à rassembler votre propre groupe de députés. Je disais qu'ils étaient déjà pas si nombreux, mais surtout, ils sont divisés. Ce qui s'est passé lundi, vous avez annoncé vous-même voter la motion de censure et vous l'avez en effet fait. Mais sur le groupe, il y a 20 députés, dont vous, qui avez voté la censure sur 68. Vous êtes en minorité dans votre propre groupe.
Il peut arriver qu'on soit en avance de phase. Moi, on a eu un débat qui a été un débat curieux, mais enfin, je ne vais pas ici le qualifier davantage. Et effectivement, j'ai fait un choix. Pourquoi j'ai fait ce choix ? Parce que je ne veux pas donner quitus au gouvernement. Vous avez vu encore ce matin les images qui sont produites dans la Drôme avec l'absence de Canadair, l'absence de moyens qui sont là pour lutter contre les incendies qui sont directement liés à la canicule. J'ai tout à l'heure écouté Cécile Duflot à votre micro qui expliquait qu'on était dans une époque où on commençait même à avoir des réfugiés climatiques. Je ne voulais pas donner quitus au gouvernement de son action sur le climat. Alors à un moment où au contraire il réduit les budgets qui sont destinés à limiter le réchauffement climatique et la résilience climatique.
Mais ça n'est pas été votre seul argument.
Le deuxième argument que j'ai évoqué devant mon groupe, c'est de dire, rendez-vous compte que le lendemain de ce vote, il y aura un vote qui sera proposé par le gouvernement sur l'adoption d'une loi qui crée une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire une inversion totale de la charge de la preuve et une blessure dans l'état de droit. Et j'étais fasciné de voir que la droite et l'extrême droite, main dans la main, ont voté cette proposition. J'ai été avec beaucoup d'autres au Panthéon il y a quelques mois, au moment où le président de la République a honoré Robert Badinter. Mais ce soir-là, Robert Badinter, il n'était pas à l'honneur et c'est l'extrême droite qui était déjà majoritaire.
Vous parleriez d'un permis de tuer ?
J'irai pas jusqu'à parler de permis de tuer
C'est un des arguments et ce sont des cris qui ont été entendus depuis les rangs de la gauche dans l'hémicycle. Vous ne dites pas vous permis de tuer. Vous ne dites pas que c'est un permis de tuer.
Non, ça, la réalité, c'est que heureusement, les policiers ne sont pas tous à chercher à cibler des gens et à s'autoriser le meurtre de gens qu'ils considèrent comme des délinquants. Mais la réalité, c'est quand même que c'est très grave. Pourquoi c'est très grave ? Parce que on présume le fait que quand un policier fait usage de son arme à feu et qu'il tue quelqu'un, il était en état d'utile défense.
Mais vous comprenez,
ça n'est absolument
Olivier
pas toujours
c'est...
le cas.
Alors, mais j'entends parfaitement ce que vous dites là-dessus et sur l'écologie, mais c'est un peu illisible et c'est d'ailleurs ce qu'a remarqué Jean-Luc Mélenchon, qui a été assez au minimum ingrat sur le fait que vous votiez avec eux et avec Europe Écologie Les Verts.
Il a très bien compris une chose, parce que Jean-Luc Mélenchon, ce jour-là, qu'est-ce qu'il comprend ? Il comprend que lui, il voulait pouvoir dire une chose simple. Il voulait pouvoir dire, regardez les socialistes, regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont pas avec les écologistes, petits écologistes, venez à moi. Et donc, contrarié dans ce discours-là, il vient me taper dessus, comme toujours, parce qu'en réalité, celui qui a le plus souvent subi les foudres de Jean-Luc Mélenchon, c'est moi.
C'est vous.
Pourquoi ? Parce que, justement, il considère que je le prive d'une part de son espace politique, alors même qu'il serait très heureux d'avoir François Hollande face à lui, parce qu'il considère que dans ces cas-là, il pourrait élargir son spectre. Et moi, je suis un homme de gauche. Et donc, je me bats sur des sujets qui sont des sujets de gauche, et ça le gêne parce qu'il voudrait s'approprier à lui seul la gauche.
Vous n'avez pas le monopole quand même des critiques de Jean-Luc Mélenchon et pas non plus le monopole de la gauche.
Bien sûr que non, c'est pas ce que je dis.
Mais face à lui, effectivement, vous avez entendu donc ces mots. Il dit Olivier Faure a trahi sa parole, sa dignité, la NUPES, le Nouveau Front Populaire, tout et tout le monde pour devenir le candidat des centres. Il a refusé 10 fois la censure pour sauver Macron et maintenant, il met un maillot d'insoumis pour voter avec nous et les écolos la censure de Le Cornus. Ce n'est plus une girouette, c'est un ventilateur. Cette saison, mais Hollande n'aura pas de pitié.
Je viens de vous répondre. Je vous l'ai dit, en fait, il aurait tellement aimé que je ne vote pas cette censure. Tellement aimé pouvoir dire, regardez les socialistes, regardez comme ils sont. Ils donnent quitus au gouvernement sur la question climatique. Et malheureusement, ce discours-là, il ne peut pas le tenir. Voilà.
Le fait que il y ait parmi les rangs de la gauche non seulement les déclarés ceux qui espèrent pouvoir se déclarer comme Raphaël Glucksmann, mais ceux aussi comme Bernard Cazeneuve, comme François Hollande, dont on sent qu'ils sont un peu tapis dans l'ombre, qu'ils se préparent. Voilà, c'est l'expression. En effet, je sens une petite ironie de votre part.
Je... Oui, peut-être.
Oui, je sens de l'ironie.
Sans doute.
Voilà. S'ils sont candidats à cette fameuse primaire de la gauche, ils choisiraient plutôt le scénario 2, ce dont je viens de parler.
Je crois qu'ils choisiraient d'attendre. Et que François Hollande ne veut se plier à aucun vote.
Ah, il ne veut se plier à aucun vote?
Je crois avoir compris ça. Je crois qu'il l'a déjà dit publiquement, ou en tout cas, il y a des offres qui ont été craquées, et donc je pense qu'il ne veut se soumettre à aucun vote.
Et Raphaël Glucksmann, qui serait évidemment sans doute le favori d'une option 2, puisqu'il s'agirait comme électeur de cette fameuse primaire, à la fois des adhérents socialistes, mais aussi des adhérents Place Publique. Vous trouvez que c'est tout à fait juste?
Bah, c'est pas l'option que je défends, vous l'avez compris. Maintenant, moi je me plierai à la décision que prennent les militants. C'est vrai que le problème d'une primaire fermée, c'est que c'est une primaire dont on peut soupçonner d'ores et déjà le résultat, parce que le corps électoral détermine presque le résultat.
Comment c'est vous définiriez votre gauche aujourd'hui? J'ai l'impression qu'à chaque fois l'expression c'est gauche hors LFI. Ça fait un peu maigre d'être juste hors LFI.
C'est pas ce que je dis, j'ai pas dit gauche hors LFI. Moi j'ai dit la gauche démocratique et écologique. Et je défends, non pas, vous m'interrogez sur LFI, je vous réponds, je suis là pour vous répondre. Mais la réalité c'est que je parle très peu de LFI. Ça n'est pas mon sujet. Le sujet c'est pas de savoir si on est contre X ou Y. La question c'est de savoir qu'est-ce que nous portons.
Bah, eux parlent beaucoup de vous.
On
l'a vu notamment avec ce message de Jean-Luc
Mélenchon.
Peut-être
que parfois on les obsède, mais moi ça ne m'obsède pas. Ce qui m'obsède, ce sont les Français, la France, son État, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et c'est la seule boussole qui me guide.
Merci Olivier Faure d'avoir répondu à mes questions ce matin. Premier secrétaire du Parti Socialiste, 8h48.
Merci Apolline, vous restez bien sur RMC avec Amélie Courtet, le choix de la rédaction. On explore la question des footix, ils réapparaissent tous les 4 ans. Ils sont là en ce moment, puisqu'il y a match des Bleus ce soir, les dernières infos avant France-Maroc. Ça c'est Virginie Fulpin. A tout de suite, 8h48.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h49 sur RMC, le Mondial de Virginie. Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour.
C'est dans un instant avec vous, avec toutes les dernières infos avant le quart de finale des Bleus. Ça, c'est ce soir. Mais avant cela, le choix de la rédaction. Bonjour Amélie Courtet.
Bonjour Mathieu.
Si c'est pas un hymne footix, là. On va vous parler des footix, parce que si vous êtes fan de foot, vous en connaissez forcément dans votre entourage, celles et ceux qui se découvrent supporters des Bleus lors des grosses compétitions. Et pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, les footix débarquent, Amélie.
Et on les repère très vite avec des chansons, des musiques, mais aussi avec un petit test qui les trahit.
Si je vous demande qu'est-ce qu'un hors-jeu?
C'est quand t'as fait quelque chose d'interdit.
C'est quand l'attaquant va passer la balle à l'autre attaquant. Mais non, mais c'est vrai.
Alors, je sais pas, là, quand la balle, elle sort.
Combien y a de joueurs sur un terrain de foot
10 par équipe.
Avec ou sans le goal?
12? Non, 11. J'étais presque.
Si vous deviez me citer, là, 5 joueurs de l'équipe de France.
Kylian Mbappé, mais après, le reste...
Dembélé, je crois. Et ça s'arrête là.
Si, après...
Olysée, un truc comme ça. Ouais. Michael Olysée. Bon, les footix, on l'a vu, on l'a entendu. C'est monsieur et madame à peu près, mais ça ne les empêche pas de suivre la Coupe du Monde à fond. Dans les bars, ça saute, ça crie comme tout le monde. C'est le cas en tous les cas au My Bar, dans le 14e arrondissement de Paris. Ici, toutes les rencontres sont diffusées. Enzo, le responsable, le voit ces dernières semaines. Il y a effectivement de nouvelles têtes devant les écrans et des commentaires qui mériteraient un bon carton rouge.
Est-ce que Zidane va rentrer ou Deschamps, il entraîne l'équipe de France, mais il sort d'où ce mec-là? Ouais, bien sûr que ceux qui viennent juste pour la Coupe du Monde ou pour l'équipe de France, on les remarque. Souvent habillés de la tête aux pieds en équipe de France, qui connaissent les joueurs, mais pas trop, qui vont vraiment mettre de l'ambiance, mais ils me dérangent pas. Tant qu'on peut ramener des supporters, nous, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ça aussi la Coupe du Monde, c'est un peu le mélange de tout le monde.
Alors, dans ce beau mélange d'anciens et de nouveaux supporters, il y en a qui finissent par se découvrir une vraie passion pour le foot.
Oui, j'ai rencontré Anaïs, par exemple. Elle a 26 ans, alors elle a raté tous les épisodes de la Ligue 1. Mais sa série du moment, c'est l'équipe de France devant tous les matchs. Et même sur son téléphone, c'est...
Foot, foot, foot... Là, c'est Désir et Doué.
Exceptionnel. On le voit match après match.
Sur Insta, je pense que je passe 1 à 2 heures par jour, en vrai, à scroller pour regarder les commentaires d'après match, avant match. Plutôt tellement une footix. Comme il y a un engouement collectif, et ben, j'ai envie de faire partie de cet engouement. On a aussi une très bonne équipe. Merci. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile de suivre une bonne équipe qui gagne. Et je pense que ça rapporte beaucoup de joie aussi.
Mais Amélie, est-ce que les vrais supporters de foot, est-ce que ça ne finit pas par les agacer d'entendre des analyses approximatives, de voir des gens qui n'y connaissent rien?
Un peu quand même, Mathieu. Il y en a effectivement qui fuient les bars pour ne surtout pas croiser les footix. Virginie, peut-être que tu en fais partie.
Jamais dans un bar.
Voilà, qui préfèrent regarder le match entre vrais connaisseurs. Mais pour éviter leur jugement, il n'est pas trop tard pour se mettre à niveau. Rendez-vous sur le compte TikTok de Mouna où elle explique toutes les règles.
Le carton, c'est une pénalité qu'on donne quand tu commets une faute. Ok, je vais vous dire les surnoms des équipes.
Voilà, elle reprend vraiment toutes les bases. C'est un compte qu'elle a créé une semaine avant la Coupe du Monde. C'est à destination des femmes, mais attention, c'est une... les footix ne sont pas que des femmes. Hein. Il y en a aussi parmi les messieurs.
N'est-ce pas?
Mouna, donc, elle est fan de foot, supportrice du FC Barcelone. Elle a voulu tout simplement rendre cette Coupe du Monde, ce sport, accessible à tout le monde.
Mes retours, c'est beaucoup de filles qui se disent que maintenant, elles ont envie de peut-être suivre le foot à l'année. C'est OK, en fait, d'être une footix. On est tous le footix de quelqu'un, en fait. Donc, je pense que vraiment, il faut rester sur l'idée que le foot, c'est fédérateur et que ça doit être un moment de partage.
On est tous le footix de quelqu'un, donc voilà, pas de honte. Moi aussi, je plaide coupable, je suis une footix. La première à apporter du maquillage, des lunettes bleu, blanc, rouge pendant les matchs, à crier sur l'arbitre parce que quand même, là, il y avait faute. Mais à ne pas comprendre pourquoi Deschamps doit revenir au 4-3-3 ou perfectionner son 4-2-3-1. Quoi qu'il arrive, ce soir, je crierai à l'unisson avec les footeux, allez les bleus.
C'est franchement, Amélie, et puis votre regard sur Virginie, le regard bienveillant de Virginie sur vous, c'était parfait. Les footix et les connaisseurs qui s'en rassemblent. Début des quarts de finale.
RMC, le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, France-Maroc, c'est à 22h ce soir, évidemment sur RMC.
Tiens, tiens, France-Maroc, comment on se retrouve? On dirait qu'on a rendez-vous tous les 4 ans maintenant.
Est-ce que tu viens pour les vacances? Je n'ai pas changé.
Si, l'adresse a changé. On est passé du Qatar aux États-Unis et des demi-finales au quart. Rendez-vous 22h. On va se reconnaître, vous serez en rouge, nous en vert d'eau. Oui, c'est une petite surprise. Au départ, on devait jouer en bleu, mais on ne veut pas laisser la routine s'installer et gâcher notre bromance. En plus, il va faire bon, 29 degrés à Boston, aucun orage à l'horizon, on va être bien. J'espère que les Bleus ont réussi à dormir cette nuit parce que des supporters marocains ont tiré des feux d'artifice et fait résonner des tambours tout proche de leur hôtel. C'est le jeu. Hein.
Michael Olise devra être prudent ce soir.
Sous la menace d'une suspension en cas de qualification des Bleus pour les demi-finales, la FIFA a refusé de lui retirer le carton jaune dont il a écopé à la fin de France-Paraguay. La France avait déposé un recours, la réponse est donc non. Bon, il faut dire que Michael Olise avait quand même mis un doigt sur sa bouche pour dire à un joueur paraguayen de se calmer. Le joueur en question s'était écroulé sur la pelouse alors qu'il n'avait absolument pas été touché. Donc, un carton rouge retiré à l'américain Balogun qui avait fait une grosse faute. Un carton jaune maintenu pour rien pour Michael Olise. Deux poids, deux mesures. Pas de quoi décourager Olise. Passe un petit peu de temps sur ses réseaux sociaux, comme une footix, faut le dire, pour tout vous avouer. Et le morceau de musique qu'il choisit souvent avec les posts, c'est ça. Et ça s'appelle Till the End, jusqu'à la fin. Le message, c'est donc, on va jusqu'au bout.
On va jusqu'au bout. Les Bleus pourront compter sur de nombreux supporters dans le monde entier.
Et pas parce que tout le monde veut voir le Maroc éliminé, pas du tout. Ce qui ressort chez les supporters étrangers, c'est que la France est l'équipe qui peut empêcher l'Argentine d'être à nouveau championne du monde. Et la perspective de voir Lionel Messi et ses coéquipiers garder leur titre n'a pas l'air d'être le rêve de beaucoup de gens. Peut-être parce qu'il y a cette impression que la FIFA avantage les Argentins. Alors le message qu'on voit fleurir à destination des Bleus, c'est « Save the World Cup », sauver la Coupe du Monde. Rien que ça.
Alors d'après les Anglais, ce ne sont pas les Bleus qui vont gagner à la fin.
Non, on pourrait croire que les Anglais voient leur équipe remporter le trophée 60 ans après leur seule et unique victoire en 1966. Alors le Premier ministre Keir Starmer évoque déjà la possibilité d'un jour férié en cas de victoire, tout en disant qu'il ne veut pas leur porter la poisse. Mais le supercomputer anglais a fait ses calculs. Bah non, it's not coming home. Le trophée ne retourne pas en Angleterre. Il reste en Argentine qui bat la France en finale. Il se trompe aussi parfois le supercomputer.
Il se trompe, et pourvu qu'il se trompe. Merci Virginie Fulpin. France-Maroc, 22h, en direct, en intégralité sur RMC, avant match dès 18h. Mais vous l'avez compris, ça a déjà commencé. After foot jusqu'à 2h du matin, et même jusqu'à la fin du... Allez, le morning demain matin. Dans un instant, les GG. Alain Marchal, bonjour, quel est le programme?
Eh bien, dans les grandes gueules, nous reviendrons quand même... ce soir, ce match va se terminer aux alentours des minuit, on va dire ça comme ça, hein, au mieux.
Dans le meilleur des cas.
Dans le meilleur des cas. Il y a la note policière qui dit l'horaire tardif plus l'envie de faire la fête, quel que soit le résultat, ça peut chauffer. Alors, il y a même des rancœurs, des tensions avec les Algériens qui ont été éliminés, disent les notes du renseignement. Est-ce qu'on joue pas un peu à se faire peur quand même avec cette histoire? Vous venez en discuter avec les grandes gueules présidentielles. Marine Le Pen progresse dans les sondages. Marine Le Pen progresse dans les sondages. Est-ce que cette quatrième candidature, selon vous, sera la bonne? On regardera aussi ce qui s'est passé du côté du 14 juillet. Ce qui va se passer du côté du 14 juillet, parce que maintenant, le 14 juillet, c'est la fête populaire par excellence. Normalement, c'est la gratuité. Maintenant, il va falloir un QR code pour pouvoir accéder au défilé du 14 juillet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, c'est des QR codes partout. Il faut montrer, il faut s'inscrire partout. Il faut être badgé partout. Donc, où est le populaire encore là-dedans? C'est au 32-16 que vous en parlez avec les grandes gueules.